Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du LUV numérique dans les bibliothèques adhérentes à Réseau Carrel. Donc, présenter un peu l'offre tant qu'elle existait en 2019, présenter un peu une synthèse aussi des pratiques, des difficultés et des attentes des adhérents sur le sujet. Donc, mon propos s'appuie sur une enquête qui a été menée en 2019, à peu près à ce moment de l'année, sur plus globalement les ressources numériques dans les bibliothèques adhérentes de Réseau Carrel. Il y avait plusieurs objectifs à cette enquête. D'abord, c'était de faire un état des lieux chiffré et actualisé de l'implantation des ressources numériques dans les bibliothèques. La dernière enquête de ce genre ayant été menée en 2015 et elle portait sur des données 2014. Il s'agissait aussi d'évaluer les ressources numériques qui étaient négociées par l'association Réseau Carrel, donc notamment pour alimenter les fiches évaluation que vous trouvez sur le site de l'association. Et il s'agissait de faire un recueil des besoins et des attentes, des difficultés des adhérents vis-à-vis des ressources numériques. Au niveau de la méthodologie, donc le périmètre de l'enquête était vraiment circonscrit aux ressources numériques payantes accessibles aux usagers. Donc on avait écarté de l'enquête tout ce qui était ressources libres et gratuites qui pouvaient être valorisées par les bibliothèques, et aussi tout ce qui était outils professionnels du type Electre ou ORB. C'est une enquête qui s'est déroulée en deux phases. On a d'abord fait une enquête quantitative qui a été envoyée par mail aux adhérents en octobre-novembre 2019. Donc c'était une enquête assez importante avec 700 questions. On a eu 109 répondants à cette enquête qui formait un échantillon assez représentatif de la diversité des adhérents, et on voulait aussi vous remercier d'avoir répondu à cette enquête. Puis il y a eu une deuxième phase plus qualitative sous forme d'entretien semi-directif qui s'est déroulée de décembre de 2019 à février 2020 et qui a été menée auprès de 9 adhérents qui avaient répondu à l'enquête quantitative. Donc, il y avait plusieurs éléments dans l'enquête, et notamment il s'agissait aussi d'évaluer les 80 ressources numériques qui étaient présentes au catalogue Carrel au moment T de l'enquête en 2019. Et il y avait surtout une nouveauté sur cette enquête qu'il n'y avait pas sur l'enquête précédente, c'était l'occasion de faire un premier bilan du dispositif PNB dans les bibliothèques adhérentes. Donc, je vais surtout vous parler de livres numériques aujourd'hui, mais si vous voulez retrouver tous les résultats de l'enquête, ils sont présents sur le site de Réseau Carrel. Voilà. J'ai juste fait un petit point sur le profil des répondants à l'enquête quantitative quand je vous disais qu'il s'agissait d'un échantillon assez représentatif. Donc on avait tous les types d'établissements qui étaient représentés avec une typologie qui peut être questionnable, mais c'est celle qu'on a trouvée la plus pertinente sur le moment. La catégorie « autres », c'est bien sûr les établissements qui ne rentraient pas dans les autres types d'établissements, et ça regroupait 4 établissements, la BPI, la Bibliothèque des sciences de l'industrie, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne et la médiathèque numérique du Sillon Lorrain. On avait toutes les régions de France représentées, plus la Suisse et la Belgique, avec quelques diversités sur les régions. Et surtout, ce qui est important pour ce que je vais vous dire par la suite, c'est que 94% des répondants ont déclaré qu'ils étaient abonnés à des ressources numériques, contre 87% en 2014. Alors, je vais commencer par faire un point sur PNB en 2019, puisque c'est en fait l'offre de livres numériques qui est la plus diffusée chez les adhérents. Vous voyez, il y a 46% des répondants qui avaient adopté ce dispositif en 2019. À noter que parmi ces répondants, il n'y a qu'une seule bibliothèque qui ne propose pas d'autres ressources numériques en dehors de PNB. Donc c'est une offre qui est pensée dans un catalogue plus vaste de ressources numériques. Ce sont tous les types d'établissements qui sont concernés. Au niveau des fonds, puisqu'il y avait une question sur le nombre de livres proposés, on est sur des fonds qui sont en cours de constitution. On sent que l'offre est encore en cours de développement parmi les bibliothèques. D'ailleurs, certains établissements ont indiqué qu'ils font le choix d'un investissement limité au début pour tester l'offre avant éventuellement d'acheter plus de titres. Et donc, par exemple, on voit que 72% des établissements proposent moins de 1500 livres en 2019 via PNB. Sur le budget, on a un budget moyen en 2018. Alors, c'est en 2018 parce que l'année budgétaire 2019 n'était pas clôturée au moment de l'enquête. Donc, on a jugé que c'était plus pertinent d'interroger sur les données 2018. Et on est sur un budget moyen d'à peu près 9 000 euros, mais avec de très fortes disparités budgétaires selon les types d'établissements, puisqu'on a des bibliothèques qui testent l'offre avec des petits budgets de moins de 500 euros, enfin de moins de 1 000 euros, et des gros établissements qui vont sur des budgets qui vont de 40 000 à 60 000 euros. L'offre PNB est aussi très différente en fonction des types d'établissements. Et on se rend compte que c'est un investissement important, surtout pour les bibliothèques départementales et les bibliothèques du coup atypiques, ce qu'on a mis dans la catégorie « autre dans la diapo précédente. Ce sont les bibliothèques qui proposent des fonds les plus importants, mais aussi qui ont une dépense par inscrit qui est la plus élevée. C'est enfin, sans doute en raison du profil des missions des établissements, puisque les bibliothèques départementales ont quand même vocation à desservir un plus gros réseau de bibliothèques. C'est aussi en fonction de la population desservie. Voilà. On avait une question aussi pour évaluer pourquoi certains établissements ne proposaient pas PNB. La première raison, c'est l'inadaptation du modèle économique pour les bibliothèques. C'est revenu dans plusieurs réponses des adhérents. Mais j'ai aussi voulu souligner que parmi les répondants, on a quand même 20 bibliothèques qui ont dit qu'ils allaient le proposer un jour à leur public, que ce n'était pour le moment pas mis en œuvre, mais que c'était des projets à court terme pour 2020 ou 2021. Alors, je fais un petit point aussi sur les autres offres de livres numériques en dehors de PNB, pour montrer qu'en fait, le livre numérique n'est pas forcément une priorité pour les établissements. Là, je vous ai mis les 10 ressources qui étaient les plus représentées en 2019 dans les bibliothèques adhérentes. Et vous voyez que, en fait, la priorité des établissements porte surtout sur l'auto-formation, la musique et la presse. Donc, par exemple, si on a, enfin, là, il n'y a pas PNB dans le tableau, mais si on l'intégrait, il serait qu'en quatrième position derrière le kiosque, enfin, caféine ex le kiosque. Et on n'a qu'une offre d'e-books qui finalement apparaît dans le tableau, c'est Story Player en 9e position. Et on voit même que à ce niveau-là, il y a quand même un gros différentiel entre le nombre d'abonnés à Story Player, donc qui représente 15% des répondants, avec Tout Apprendre qui représente près de 70% des adhérents. On a aussi dans l'enquête, on a fait un classement des ressources par type de ressources. Donc, j'ai pas mis le tableau ici, mais si on s'intéresse au classement des ressources de livres numériques, en fait, on voit que c'est les offres jeunesse qui sont les plus représentées chez les adhérents, puisque les 4 premières places du classement sont en fait sont occupées par Story Player, La Souris qui raconte et Whisperies, et on a Bibliovox qui se glisse à la 2e place parmi ces offres jeunesse. Et sur l'implantation des ressources, il y a aussi de fortes disparités selon les types d'établissements, puisque les bibliothèques départementales, en plus d'avoir une offre riche sur PNB, vont beaucoup plus proposer de ressources jeunesse. Type Story Player, La Souris qui raconte, Whisperies, mais il y a aussi d'autres ressources type D-Game, qui là n'est pas du livre numérique, mais qui est aussi qui font partie du catalogue jeunesse des bibliothèques départementales. Et on a un top 10 qui est complètement bouleversé quand on s'intéresse aux bibliothèques atypiques, avec beaucoup de ressources en auto-formation et beaucoup de ressources en livres numériques, du fait du profil atypique de ces bibliothèques, puisqu'on y retrouve la BPI et la Bibliothèque universitaire de Lausanne. Juste pour vous parler du retour d'expérience des adhérents, donc c'est des choses qui sont remontées de l'enquête quantitative et de l'enquête qualitative avec les entretiens. Sur la gestion des collections, on se rend compte que le livre numérique a une place assez atypique dans le paysage des ressources numériques dans les bibliothèques, puisque c'est un sujet assez transversal au sein des équipes plus que les autres types de ressources. Souvent, le budget des livres numériques est intégré au budget roman des bibliothèques. Les livres sont souvent achetés en collaboration avec les chargés d'acquisition, ce qui n'est pas forcément évident pour les autres types de ressources. Et ça se ressent aussi dans tout ce qui est politique documentaire, parce que les adhérents étaient assez unanimes pour dire que la collection numérique était vue comme une prolongation de l'offre, de la collection physique, puisque ça permettait le livre numérique soit permettait d'acheter en plusieurs exemplaires des best-sellers et donc de réduire un peu l'achat sur la collection physique, soit de combler des lacunes qui existeraient dans les collections, notamment pour les bibliothèques départementales. Et ce qui était assez frappant aussi, c'est que le livre numérique était vu comme la vitrine numérique de la bibliothèque. Et c'est souvent, en fait, une demande forte des élus. Quand on a interrogé les adhérents sur les attentes de leurs élus vis-à-vis des ressources numériques, c'est PNB qui revenait toujours en premier. Je vais passer très vite sur les dispositifs de médiation, de valorisation, parce que je pense que vous les connaissez mieux que moi. Mais ce qui était assez frappant aussi dans l'enquête, c'est que la première forme de médiation pour les adhérents, c'était la formation. Le fait que tous les agents, tous les bibliothécaires soient bien formés aux ressources numériques, à l'utilisation des ressources numériques. Donc c'est des formations qui se font souvent en interne, ce qui peut poser parfois certaines difficultés. C'est surtout les bibliothèques départementales qui nous ont fait ce retour. C'était assez difficile de former tout le réseau de partenaires. On a des dispositifs bien sûr classiques, lettres d'information, flyers, les affiches, les sélections sur le portail, mais il y avait aussi quelques idées de matérialisation du livre numérique dans les espaces physiques, que ce soit des fantômes avec des QR codes, des arbres à livres numériques placés à l'entrée de la bibliothèque, voilà. Et enfin, on a aussi posé la question de l'action de médiation dans les espaces de la bibliothèque. Donc, ils peuvent prendre plusieurs formes, des présentations flash. Il y a le livre numérique est aussi une bonne base pour des ateliers jeunesse ou pour des heures du compte numérique. Et j'ai noté aussi la prise de rendez-vous avec un bibliothécaire, parce qu'une bibliothèque a dit qu'ils ont un service « J'emprunte un bibliothécaire » qui concerne énormément l'emprunt de livres via PNB. Ce qui était intéressant aussi sur l'enquête 2019 par rapport à l'enquête 2015, c'est qu'on voit peu à peu disparaître les ateliers numériques qui consistent à former les usagers sur les ressources numériques. Ça, c'est une forme de médiation qui tend à disparaître, notamment parce qu'elle ne touchait pas assez de public ou touchait un public d'habitué. Sur les difficultés et les freins au développement, les adhérents ont signalé d'énormes difficultés avec PNB, que ce soit au niveau des tarifs, des conditions de prêt trop restrictives, des évolutions techniques qui n'étaient pas supportées par les SIGB ou les difficultés de prise en main par les usagers. Il y a eu beaucoup d'adhérents qui ont parlé des freins techniques, qui notamment se liaient à la DRM Adobe. Mais En général, les adhérents ont pointé un problème général d'accessibilité, alors que ce soit sur le livre numérique ou sur les ressources en général, sans en parlant, enfin, au-delà de la question d'accessibilité handicap, il y a le souci que ce sont encore des ressources qui utilisent des formats propriétaires, qui sont faites pour des usagers qui sont à l'aise avec l'informatique, que tous les matériels ne sont pas compatibles avec ces ressources, et donc c'est compliqué de faire de la médiation autour de ces ressources quand elles ne sont pas accessibles au plus grand nombre. Et enfin, sur l'utilisation du livre numérique, on note un bilan très contrasté auprès des usagers. Les bibliothèques ont en fait beaucoup de mal à évaluer qu'est-ce qu'un taux satisfaisant d'utilisation des ressources. Donc, ils ont l'impression, enfin, une impression subjective que l'usager est plutôt content de l'offre PNB, que c'est une grosse attente, que c'est une ressource assez utilisée. Ils le voient surtout quand il y a des dysfonctionnements. Mais en fait, il y a aussi des vraies difficultés pour les usagers à prendre en main cette ressource. Il y a aussi des usagers qui sont encore très fortement attachés au papier et qui ne veulent pas entendre parler de livres numériques. Et voilà. Et donc, les adhérents ont du mal à savoir si vraiment c'est une offre qui parle aux usagers. Je vais terminer sur les attentes qui ont été exprimées lors de l'enquête. Donc, des livres numériques plus accessibles avec une amélioration des DRM, une simplicité technique et des coûts réduits. Beaucoup d'adhérents ont demandé une offre de livres audio qui existerait hors PNB. Une meilleure offre de formation sur le livre numérique et plus généralement sur les ressources numériques et sur la gestion des liseuses, des tablettes et smartphones. Et enfin, vis-à-vis de l'association Carel, les adhérents attendent une meilleure remontée d'informations sur PNB, des échanges plus réguliers entre eux, par exemple, à l'occasion de ce type de journée, mais ils aimeraient en avoir un petit peu plus souvent, et surtout une mutualisation des ressources et des expériences de chacun pour pouvoir échanger plus facilement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Frédéric. Je te livre aux questions de la salle. Non. Bien, je vais demander à Thierry Clerc, chef du bureau de la lecture publique.
Il y a des questions.
Ah, je ne l'ai pas vu, excusez-moi.
Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez eu des remontées que nous, on commence à avoir sur le coût écologique du livre numérique. Et s'il y avait des études qui portaient justement sur, parce qu'on en parle de plus en plus, le coût écologique du numérique en général.
Alors, on n'a pas eu de remontée, mais en même temps, on n'a pas posé la question. Ce n'était pas une préoccupation durant l'enquête, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour les futures enquêtes de ce type, de poser la question aux adhérents, de savoir s'ils ont des remontées sur ce sujet.
Dans les entretiens qualitatifs, on a des bibliothécaires qui nous ont fait part de la réticence des usagers à utiliser le numérique parce qu'il y avait déjà beaucoup de numérique, notamment en jeunesse.
Oui, c'est une remontée qu'on a eue effectivement, surtout sur les ressources jeunesse, que les usagers préféraient que la bibliothèque évite de proposer ce genre de ressources à leurs enfants, qui sont déjà bien accaparés par les écrans. Mais je pense que c'est pas tant sur le côté écologie que sur le côté éducation aux écrans et...